Chapitre 50. À Genève. 1 sur 5. Grâce à Favraz, le chef de la police criminelle du Valais, nous avions décroché un rendez-vous à Genève avec le lieutenant Philippe Sagamore. C'est ainsi que le matin du mardi 3 juillet 2018, Scarlett et moi nous rendîmes à Genève pour la journée. «
Je comprends que la police valaisanne ait refilé ce dossier aux Genevois, » dis-je à Scarlett. « Si c'est pour se farcir 1h30 de trajet chaque fois qu'ils doivent interroger quelqu'un. » »«
Vous êtes certainement l'enquêteur le plus râleur que je connaisse. » La route de Verbier à Genève longeait le lac Léman. Entre deux coups d'œil au panorama, Scarlett me donnait lecture de différents articles qu'elle avait glanés à propos du meurtre. « Ça fait des jours que je reprends tout le dossier, » s'agaça Scarlett. « J'ai l'impression que nous passons à côté de quelque chose. Tous les journalistes affirment que Jean-Bénédict Hansen était apprécié de tout le monde. Tous ceux qui l'ont fréquenté n'en disent que du bien.
Et pourtant, relevai-je, il y a au moins une personne qui lui en voulait à mort.
Pour découvrir qui, il faudrait commencer par découvrir pourquoi.
J'espère que ce Sagamore pourra nous aider. En tout cas, bravo de l'avoir convaincu de nous recevoir. Vous êtes très persuasive, Scarlett.
Pfff, je n'y suis pour rien.
Figurez-vous que c'est votre nom qui a ouvert sa porte.
Au début, au téléphone, il était très réticent. Il voulait savoir comment j'avais entendu parler de lui.
Quand j'ai lâché votre nom, il est devenu immédiatement très chaleureux. Apparemment, il a aimé la série télévisée adaptée d'un de vos romans. Il faudra que je la regarde.
Je fus amusé par cette évocation.
Bernard et le cinéma, ça a été quelque chose, expliquai-je. C'est lui qui est à l'origine de cette série.
Bernard aimait le cinéma ? Demanda Scarlett.
Il adorait le cinéma. C'était l'un des plus brillants critiques de cinéma il y a quelques dizaines d'années. Il avait tout vu. Il connaissait tous les films, tous les acteurs. D'ailleurs, après le succès de mon second roman, de nombreux producteurs ont voulu acquérir les droits du roman pour une adaptation cinématographique. C'est lui qui a géré tout ça, et ça m'a valu quelques bons fous rires.
Racontez-moi ça, réclama Scarlett. Paris, quelques années plus tôt. Bernard était un homme difficilement impressionnable. Aussi, lorsque les producteurs et les studios de cinéma se pressèrent à la porte de son bureau, à Paris, pour acheter les droits d'adaptation de mon second roman, il garda son sang-froid, contrairement à moi, qui m'émerveillais chaque fois des noms de nos interlocuteurs et du montant des offres. Bernard, lui, était beaucoup plus réservé. Surtout par son immense culture cinématographique, il trouvait des défauts à tout le monde. Après les rendez-vous, il ne manquait pas de descendre en flammes les différents noms qui avaient été cités, à la production, à la réalisation ou comme acteur, me rappelant ainsi que même les plus grands avaient fait de très mauvais films.
« Mieux vaut pas de film qu'un mauvais film », me disait Bernard.
Au début, je ne comprenais pas pourquoi il se montrait tellement méfiant. Puis, je finis par comprendre la raison de sa prudence. Je lui avais confié la mission de gérer ses droits cinématographiques et il ne voulait pas me décevoir. Au producteur qui oublia volontairement de laisser une pièce à l'employé du vestiaire d'un palace parisien alors qu'il venait de dépenser des centaines d'euros pour nous inviter à déjeuner, pensant nous impressionner, Bernard refusa de céder les droits parce qu'il ne voulait pas travailler avec un radin. À l'un des réalisateurs américains les plus en vue du moment, qui insistait pour acheter les droits, Bernard les lui refusa car celui-ci ne voulait pas venir déjeuner avec lui à Paris.
« Il est sûrement très occupé, » fis-je remarquer à Bernard.
On peut comprendre qu'il ne puisse pas venir de Los Angeles à Paris uniquement pour déjeuner avec vous.
S'il voulait vraiment les droits, il viendrait. S'il ne vient pas, cela veut dire qu'il n'a pas vraiment envie de faire ce film et qu'il abandonnera sans doute le projet en cours de route. Et vous, vous vous retrouverez sans rien. Ne vous laissez pas impressionner, Joël.
Au studio hollywoodien qui nous fit une proposition mirobolante, Bernard offrit une fin de non-recevoir.
Tout de même, Bernard, lui dis-je. On parle de plusieurs millions de dollars.
Il n'y a pas que l'argent dans la vie, Joël. Il faut de l'ambition. Tous les derniers films produits par ce studio sont lamentables.
Le pompon de ses aventures revint à la conversation téléphonique organisée entre Bernard et l'un des réalisateurs les plus influents d'Hollywood. Pour l'occasion, un émissaire du bureau parisien dudit réalisateur avait été dépêché auprès de Bernard, qui ne parlait pas anglais, pour traduire les échanges. L'appel terminé, l'émissaire, visiblement très impressionné, dit alors à Bernard
« Vous vous rendez compte, monsieur de Fallois, vous venez de passer 45 minutes au téléphone avec monsieur Untel.
Monsieur Intel n'a jamais de temps pour personne et vous, il vous accorde 45 minutes, vous vous rendez compte ?»
Et Bernard de répondre avec une moue déçue.
« Non, je ne me rends pas compte. Je voudrais bien que vous m'expliquiez. Parce que si vous m'aviez dit que je venais de passer 45 minutes au téléphone avec le grand Alfred Hitchcock, alors là, oui, j'aurais été très impressionné. Si vous m'aviez dit que je venais de passer 45 minutes au téléphone avec le grand Buster Keaton, alors là, oui, j'aurais été impressionné. Si vous m'aviez dit que je venais de passer 45 minutes au téléphone avec le grand Charlie Chaplin, alors là, oui, j'aurais été très impressionné. Mais ce monsieur Intel, là, non. « Je ne vois vraiment pas pourquoi je devrais être impressionné. »
Dans la voiture, Scarlett éclata de rire. « Il a vraiment dit ça ?»«
Oui. » »«
Et comment ça a fini ?»«
Nous avons finalement opté pour un projet de série télévisée,
parce que c'était le format le plus à même d'être fidèle au roman. » Bernard avait d'abord eu quelques réticences. Pour lui, la série télévisée restait inférieure au cinéma. Il disait « Quand même, le cinéma, c'est le 7e art. » Et puis, il avait pris conscience de la prépondérance des séries modernes sur le cinéma, puisqu'elles en avaient désormais les moyens, les réalisateurs, les acteurs, avec le bénéfice d'une durée étendue. En voyant les premières images de notre série, Bernard me dit « La série, c'est le nouveau cinéma. » Comme convenu avec Sagamore, Scarlett et moi arrivâmes au siège de la police judiciaire genevoise en milieu de matinée. Le policier nous attendait dans le hall d'entrée du bâtiment. Il me reconnut aussitôt et nous accueillit chaleureusement avant de nous conduire au 3e étage et nous installer dans son bureau.
« Alors, c'est Favras qui vous envoie ?» nous dit-il.
Nous essayons de comprendre ce qui s'est passé dans la chambre 622 du palace de Verbier, expliqua Scarlett.
« Je voudrais bien connaître le fin mot de cette histoire, moi aussi, » avoua Sagamore. « Que savez-vous exactement ?»
Je décidai de sortir un premier atout. Nous savons que la police a fait une découverte dans la chambre 622 après le meurtre. De quoi s'agissait-il ? Sagamore esquissa un sourire.
« Vous êtes diablement perspicace.
Puis-je vous offrir un café ? »